ça y est, jamais plus, ils ne s'opposeront à ceux qui veulent changer cette société. Nous l'avons prouvé.
La pierre non se vende, se lucha y se defiende.
Nous ne renverserons pas la tyrannie industrielle en bichonnant une petite oasis bio arrosée par les pluies nucléaires, mais en transformant radicalement les rapports sociaux, en démantelant les machineries économiques, industrielles et de contrôle social.
Le 17 avril 1996, une manifestation du mouvement des sans-terre au Brésil est attaquée par la police qui tue 19 personnes. Pour les 20 ans de cette journée, devenue Journée internationale des luttes paysannes, les paysannes et paysans dans la lutte des classes prend l'antenne pendant 24 heures.
Du 16 avril à 15 heures au 17 avril à 15 heures, retrouvez l'émission paysanne de Radio Canu avec au programme des discussions en direct avec des paysans paysannes, des directs avec des actions et mobilisations à l'occasion du 17 avril, des rediffusions de reportages et entretiens pour comprendre les réalités et les luttes paysannes.
Le programme complet sur le blog de l'émission blog@radiocanu.org, lutte paysanne au pluriel.
Les gens qui se déclarent paysans, la tête lourde.
Les paysannes et
Alors, cette séquence sur les luttes paysannes internationales va commencer. Il est 20h05. Voilà, donc pendant 2 heures, on va un peu faire le tour de la situation des paysanneries dans le monde avec un premier invité par téléphone. Il s'agit de Christian Roquerolle, qui est éleveur en Aveyron et qui représente la Confédération paysanne à la commission internationale de coordination de la Via Campesina. Alors, merci en tout cas d'avoir accepté de participer à ces 24 heures des luttes paysannes. Depuis l'Arzac, tu veux te présenter un petit peu mieux, s'il te plaît ?
Oui, avec plaisir, bien sûr. Donc moi, je suis paysan éleveur de moutons sur le Larzac, ce qui n'est pas original ici. Je suis ici depuis 35 ans maintenant. Je suis arrivé pendant la lutte de Larzac pour... Je venais de la journée de la région de Lyon, justement de Bourg-en-Bresse. Hein. Et je venais pour faire mon service civil en tant qu'objecteur de conscience, de manière sauvage un peu, puisque c'était pas vraiment permis à l'époque de faire ça comme ça, pour aider les paysans du Larzac à lutter contre l'extension du camp militaire du Larzac. Et de fil en aiguille, ben, je suis resté, j'ai eu l'opportunité de récupérer une ferme que l'armée convoitait. Et depuis, je suis paysan et militant à la Confédération paysanne, donc pour défendre les petits éleveurs, les petits paysans et la paysannerie dans le monde. On va dire ça comme ça pour faire court.
Alors, tu as repris des fonctions de représentation à la CCI. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que vous faites à la CCI de la Via Campesina?
Donc, je représente effectivement la Confédération paysanne et la Via Campesina Europe au bureau international de la Via Campesina en tant que suppléant. Hein, seulement, je ne suis pas titulaire, mais donc je participe à quelques réunions de temps en temps. Et la coordination européenne mondiale Via Campesina, donc c'est comme son nom l'indique, une coordination de syndicats de petits paysans, de paysans vivriers dans la plupart des pays et de petits paysans en Europe, qui et cette coordination se charge de faire en sorte que les luttes paysannes aient un aspect mondial et comment dire une unité un peu dans certaines revendications. Donc on a des revendications qui sont à la fois des revendications d'action et de réaction à des sujets qui nous préoccupent immédiatement, puis on a des revendications de long cours. Bon, en particulier, on réagit beaucoup en ce moment au problème des accaparements des terres qui ont lieu en Afrique et en Amérique du Sud, en particulier, et un peu en Asie. Donc on est représenté dans 70 pays, et on représente plus de 220 millions d'adhérents au syndicat de ces pays-là. Donc, ce qui est en fait le syndicat paysan le plus important au monde, le syndicat de la coordination paysanne au monde le plus importante, et la seule représentation en fait mondiale des paysans. Et en dehors des actions donc ponctuelles qui réagissent à des agressions, on a des actions de fond comme la revendication principale qui est le droit à la souveraineté alimentaire pour les pays. Ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, c'est le droit pour chaque pays à se nourrir avec les produits de sa paysannerie, en ayant le droit de se défendre contre les agressions commerciales, en particulier donc contre tout ce qui est accord de libre-échange, Organisation mondiale du commerce, etc., pour permettre aux petits paysans de ces pays de vendre leur production, alors que ces agressions commerciales, ces accords de libre-échange qui font du dumping alimentaire font baisser les prix et les cours des denrées locales et donc font crever les petits paysans.
Du coup, la Via Campesina comme mouvement fait exister de manière contemporaine ce qu'on appelait à l'époque les internationales des travailleurs.
Oui, on pourrait comparer ça comme ça à ça, oui, effectivement.
Et je sais pas.
On représente majoritairement des paysans qui ont. Qui sont des petits paysans, hein, ça n'a rien à voir avec les paysans de la FNSEA de chez nous, la plupart des paysans de la FNSEA qui sont souvent des gros propriétaires. Et donc on représente des gens qui ont souvent moins de 2 hectares pour faire vivre leur famille. Mais on est une internationale, effectivement, qui n'est pas dans tous les pays, encore ni dans tous les continents. Enfin, on est présent sur la plupart des continents, on n'est pas présent du tout, par exemple, ni en Chine, ni en Russie. Donc là, on a un peu du mal avec ces régimes-là où il n'y a pas de représentativité syndicale des travailleurs de la terre.
Dans le monde arabe également.
Dans le monde arabe, on commence juste à avoir des embryons de réseau qui se mettent en place. Là, on a donc une organisation syndicale des travailleurs de la terre là où il y a beaucoup de salariés agricoles. Hein, mais à la Via Campesina, on accepte aussi les syndicats de salariés agricoles. Mmh. Il y a donc au Maroc, on a une représentation qui a adhéré à la Via Campesina d'une structure syndicale assez puissante. Et on commence à avoir en Tunisie des embryons de formation de petits mouvements, mais pour l'instant c'est pas encore vraiment structuré. Un petit peu en Égypte, et on a aussi des représentants palestiniens, donc qui sont à la Via un mouvement palestinien qui s'appelle l'UAC, qui est représenté à la Via Campesina. Donc le Moyen-Orient commence à. Les pays du Maghreb commencent à se structurer à l'intérieur de notre mouvement. Ce qui est super, hein, parce que on désespérait d'arriver à faire bouger un peu les gens sur les problèmes paysans dans ces mondes-là, alors qu'il y en a vraiment beaucoup besoin, quoi. Mmh. C'est une agriculture qui est terriblement en danger aussi.
Je me demandais la place que prend cette journée mondiale des luttes paysannes dans le mouvement de la Via Campesina. Est-ce que là, pour l'anniversaire des 20 ans, il y a eu une dynamique, un processus particulier au niveau international entre les organisations membres?
Ça dépend des continents et des pays. En France, par exemple, il y a très peu de choses. Je sais qu'à Bure, il y a une journée qui est organisée en lien avec ça. Le Bure, là où il y a le projet d'enfouissement des déchets radioactifs. Donc, en lien avec les paysannes. Je sais que demain à Lyon, vous faites une spéciale nuit debout sur la lutte paysanne, apparemment, où il y aura pas mal de paysans, de faucheurs volontaires, etc., qui sont invités à participer demain soir à Place Guichard à Lyon, où il y aura une projection du film Tous au Larzac, si c'est maintenu. Moi, j'ai eu ça il y a 2-3 jours. Je sais pas si vous êtes au courant, Radio Canu.
Eh ben, a priori, oui, c'est maintenu normalement. C'est demain soir, Place Guichard pour la nuit debout. Ouais.
Voilà, donc il y a quelques petites manifestations par-ci par-là, mais il n'y a rien de très important. Il faut dire que ça tombe mal pour la Confédération paysanne en France, parce qu'il y a notre Assemblée générale la semaine prochaine, et ça bouffe beaucoup d'énergie, ça. Donc les gens sont pas mal mobilisés là-dessus, au niveau des départements. Donc après, je suis pas forcément au courant de tout, hein, parce que des départements font des choses sans forcément le faire savoir à l'extérieur à l'avance. Et sinon, je sais qu'en Amérique latine, il y a toujours beaucoup de manifestations à ce moment-là, en particulier au Brésil avec les paysans sans terre, puisque c'est de là-bas dont est partie cette commémoration annuelle. Donc suite à un massacre de paysans sans terre. Dans d'autres pays comme le Honduras, il y a eu récemment des assassinats de syndicalistes paysans, donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui se font. Et puis en Europe, j'ai pas d'écho, mais je sais qu'il y a plusieurs pays qui prévoyaient de faire des journées ou des conférences ou Voilà, c'est plus ou moins important suivant les pays et suivant les opportunités.
D'accord. Est-ce que ça te dit d'essayer de faire un espèce de descriptif un peu général de la situation des paysanneries dans le monde, ouais. dans le sud, voir un peu où c'est qu'on en est avec la disparition des paysans, leur maintien et les combats avec lesquels ils doivent faire face.
Mmh. Oui, il y a encore plus d'un milliard de paysans dans le monde. Les petits paysans ont encore un rôle très important au niveau de la production alimentaire, puisqu'ils produisent sur des superficies de moins de 2 hectares, et ils représentent encore, les petits paysans, 70% des paysans du monde. Et ils arrivent sur 30% des superficies mondiales cultivées par eux, donc puisqu'ils ont des petites surfaces, ils arrivent à produire 70% de l'alimentation mondiale, donc ce qui est très important. Donc la paysannerie n'est pas morte, il y a encore énormément de paysans. Il y a beaucoup de pays comme dans les pays asiatiques, Amérique du Sud et surtout en Afrique et en Asie. Hein, il y a encore 80% de la population qui est d'origine rurale, contrairement à nos pays riches et développés où 80% des populations vivent dans les grandes agglomérations. Donc ça continue à être assez important. La paysannerie est encore une importance peut-être un peu moins grande chez nous, mais on a encore pas mal de petits paysans sur les 500 000 fermes environ qui restent en France, ce qui est très peu hein, par rapport à ce qu'il y avait au début du siècle dernier ou après la guerre.
Il y a même 30 ans.
Il y avait encore 5 millions de fermes après la sortie de la guerre de 1945, donc pour voir qu'il y a quand même pas mal d'hémorragie, mais encore sur les 500 000 fermes qu'il y a, il y a pratiquement 50% de petites fermes, c'est-à-dire des fermes qui font moins de 20 hectares. Chez nous, 20 hectares, c'est tout petit. Hein. C'est la moyenne des fermes étant à 55 hectares. Et on sait qu'il y a des paysans, des agri-managers qui ont des fermes de plusieurs centaines d'hectares, en particulier donc des céréaliers. Donc on ne peut pas dire que la paysannerie se porte mal, mais simplement elle est attaquée de toutes parts actuellement. Et depuis un certain temps, l'agriculture et le foncier surtout commencent à se financiariser, c'est-à-dire faire de lieux de placement d'argent. Et en particulier, des grandes entreprises comme Bolloré chez nous vont en Afrique faire des plantations de palmiers à huile, et en particulier, ou des VA pour, par exemple, au Cambodge, mm-hmm. toujours pour Bolloré. Et donc, ils expulsent les petits paysans. Après, ils embauchent une partie pour travailler sur leurs terres, mais ils font plus des agricultures vivrières, ils font des agricultures industrielles pour produire en grande partie avec l'huile de palme du carburant pour nos véhicules, quoi. Donc ça, c'est un grand danger et ça va très vite. Donc il y a beaucoup de structures via Campesina qui se bagarrent contre les accaparements de terres, et on essaye de faire évoluer au niveau mondial donc une législation qui protège les paysans. On essaye de mettre en place un droit des paysans qui soit reconnu par l'ONU. Alors ça progresse, mais par exemple la France, pour l'instant, jusqu'à présent, elle était contre. Maintenant, elle s'abstient lors des votes à l'ONU là-dessus. Ça se passe à Genève, ces réunions. On est en train d'essayer de faire valoir des droits paysans, et en particulier un droit au foncier et un droit à être préservé quand on travaille la terre et ne pas pouvoir être expulsé du jour au lendemain parce que le cacique local ou le président du pays aura décidé de, moyennant des pots de vin, de laisser ça à une grosse entreprise européenne ou américaine. Donc ça, c'est un vrai problème.
Alors sur la déclaration des paysans et des paysannes, on va avoir dans un petit moment l'intervention de Valentina,
oui,
pardon,
oui.
d'Unitaire,
oui.
qui va pouvoir donner un peu des éléments sur comment cette déclaration s'est mise en place depuis une dizaine d'années, qu'elles y travaillent aussi. Et sur les accaparements de terres, à la suite de l'intervention de Valentina, on aura un petit exposé d'une association qui travaille justement sur mettre en lien des victimes rurales des plantations Bolloré en Afrique et au Cambodge.
Oui, donc, React, oui.
Voilà. Et du coup, c'était pas pour t'empêcher de dire des trucs là-dessus.
Non, mais c'est
justement
bien.
Chouette d'introduire, parce qu'on va pouvoir approfondir tous ces sujets par la suite. Et je me demandais... Au niveau de la Via Campesina, je sais que toute la dimension sur les semences, sur les nouvelles technologies, mm-hmm. sur les brevets, c'est un combat en continu. Est-ce que tu aurais des choses un peu à nous en dire ?
Oui, bah, ça fait partie du droit à la souveraineté alimentaire, hein, le droit aux semences et le droit à la liberté de produire ses propres semences et de ne pas et la demande de l'interdiction du brevetage du vivant. C'est un des combats principaux qui sont reliés donc justement à cette souveraineté alimentaire, parce que il n'y a pas de souveraineté alimentaire si on n'a pas d'accès à des semences libres et si on est obligé de planter des semences qui sont trop chères pour les petits paysans et qui sont diffusées par des gens comme Monsanto ou d'autres ou Bayer ou d'autres grandes firmes chimiques. Donc ça fait partie vraiment de la base des combats de la Via Campesina. C'est clair que là-dessus, on est en lutte contre les OGM. On a réussi, le Burkina Faso a réussi à faire interdire les OGM chez lui depuis très peu de temps, alors que le coton OGM commençait à envahir tout le Burkina Faso. Donc c'est une victoire assez importante. On sait que les OGM en Afrique sont diffusés de manière assez pernicieuse. Au début, on fait cadeau des semences aux paysans. Après, on leur interdit de ressemer ce qu'ils ont récolté, mais on leur demande de racheter des semences, etc. Donc, ils ont été pris dans un engrenage comme ça. Mais apparemment, là, on est en train de regagner la confiance des paysans par rapport à ça et le fait qu'ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir, quoi. Bon, ça, c'est aussi un combat très important en Inde, pour le riz en particulier, donc ou aussi... les paysans indiens, donc adhérents à la Via Campesina, ils sont plus de 20 millions en Inde à adhérer à la Via Campesina. Et ils sont en bagarre aussi contre ces semences, et apparemment, pour l'instant, ils arrivent à résister, quoi. Mais il y a eu un moment où c'était l'envahissement complet, quoi. Donc on a l'impression quand même que le fait de se structurer au niveau mondial a pu faire gagner, en tout cas... certains combats comme celui-ci qui pour moi est en train d'être gagné. On est encore bon sur celui des accaparements de terre, on a encore beaucoup de boulot, mais on a réussi à freiner pas mal. Et puis il y en a d'autres combats aussi, hein, à la Via Campesina. Bon, dans certaines régions, c'est l'eau qui est très importante, la privatisation de l'eau, les barrages, etc. On voit là récemment, on a fait une réunion importante en Turquie où les paysans turcs et en particulier au Kurdistan turc, sont vachement impactés par des grands projets, style des barrages, qui pour freiner l'eau, pour pouvoir avoir de l'eau potable, etc. Et donc on les empêche d'irriguer leurs champs. Et d'autres projets, hein, y a des mines, il y a plein de choses en Turquie, il y a pas mal de projets qui impactent le monde paysan, qui sont d'ordre extractivisme aussi. Il n'y a pas qu'en Turquie, il y a aussi ça au Pérou, etc. Enfin, il y a pas mal de sujets de préoccupation pour d'accaparement de foncier par des grandes entreprises, pas uniquement pour faire des carburants, quoi. Et aussi, on a, ça j'en ai pas encore parlé, mais un combat très important pour pas mal de pays, c'est la Via Campesina depuis toujours mène un combat contre les violences faites aux femmes et pour que les femmes aient des droits des droits sur le foncier. Parce que dans beaucoup de pays, le foncier, c'est l'homme qui gère, et si l'homme décède ou quoi, la femme n'a plus aucun droit, par exemple, ou si il part, etc. Donc la lutte contre les violences faites aux femmes et pour des droits pour les femmes dans certains pays, c'est un sujet très important à la Via Campesina aussi. Il faut savoir que on est un syndicat qui dans toutes ses instances et à tous les niveaux, demande la parité intégrale, donc oblige la parité intégrale à toutes les réunions, à toutes les représentations. Il y a toujours un homme et une femme, et aussi on demande aussi est-ce qu'il y a un pourcentage d'un tiers de jeunes dans toutes les assemblées qui sont décisionnelles dans les pays et dans les assemblées continentales ou mondiales. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup ailleurs et qui à mon avis fonctionne bien. Enfin, moi je les ressens très bien quand je vais dans ces réunions-là, qu'on n'a pas du tout le même style de réunion dans des assemblées comme celle-ci, où il y a un tiers de jeunes et moitié de femmes, que dans des réunions où tu as des quinquagénaires en costard-cravate, quoi, dans beaucoup de mouvements autres que celui-là, quoi.
Et ouais, justement là-dessus, sur le fonctionnement et les instances de la Via Campesina,
ouais.
Peut-être que tu as parlé de la parité, il y a, je crois, aussi une question de secrétariat tournant. Enfin, il y a un certain nombre de mesures qui visent à un peu une horizontalité, en gros, si j'ai bien compris, du fonctionnement syndical. Je ne sais pas si tu peux expliquer ça un petit peu.
La structuration au niveau mondial.
Oui, Et du coup, justement, cette, un peu cette structuration horizontale et tournante de, du syndicat.
Oui, donc il y a, on a une, on appelle ça la, une, c'est pas une assemblée générale, c'est ni un congrès, on appelle ça une conférence internationale tous les 4 ans. Et là, il y a à peu près 600 délégués. La celle où j'ai été en Indonésie, il y avait 600 délégués. Le bureau était en Indonésie à ce moment-là. Et donc tous les 4 ans, le bureau change de continent. C'est-à-dire que le staff qui gère est obligé aussi de se déplacer. Et c'est un syndicat local d'un continent qui prend en charge donc pas local, national, le fonctionnement de la coordination internationale. Et actuellement, il est allé au Zimbabwe, donc en Afrique. Elle a été en Asie, donc avant ça, elle a été en Europe. Après, je ne me rappelle plus, mais bon, c'est tous les 4 ans. Tous les 2 ans, il y a une conférence à mi-parcours qui est un peu moins importante, où il y a un peu moins de délégués, mais pour faire le point. Et donc on fonctionne comme ça, de manière donc assez tournante, pour que chaque continent puisse participer au fonctionnement de cette structure. Et on change donc de présidence. En général, la présidence, c'est la présidence du pays où est le bureau, quoi. Donc ça pose des problèmes un peu de fonctionnement, des fois. C'est un peu compliqué à organiser, mais on fonctionne beaucoup par Internet maintenant. On n'est pas obligé de se déplacer à chaque fois. On fait quand même des réunions. On les fait. Les réunions internationales, il y en a pas mal qui ont lieu à Rome, parce qu'à cause de la FAO, donc où on a une représentation, il y a pas mal de nos représentants de tous les pays qui viennent à Rome pour des réunions. Donc souvent on en profite pour faire les réunions internationales à Rome. Et on essaye d'avoir du coup les déplacements financés par la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et pour l'alimentation. Et où on est maintenant bien entendu et bien représenté, pour l'instant beaucoup mieux que les agri-managers, qui ont aussi leur lobby là-bas, mais qui n'ont pas une représentativité telle qu'on a en tant que paysan, quoi. Et donc on arrive à faire évoluer pas mal de choses, même si pour certains ça ne va pas assez vite. Le fait qu'on y soit, que les voix paysannes soient entendues, c'est important, quoi. Et donc, on a ce fonctionnement-là à la FAO et puis à Genève, à l'ONU, pour les droits paysans aussi.
Je voulais revenir un peu sur la question des luttes. Tout à l'heure, oui. Tu disais que le sentiment de créer un mouvement international, ça permet de se renforcer dans les pays. Donc, en gros, l'union fait la force. Oui. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tu as des exemples un peu... concret de comment les luttes se vivent, enfin j'imagine que selon les continents on n'est pas face au même pouvoir répressif et que du coup ben les formes de lutte sont pas tout le temps les mêmes, mais est-ce qu'il y a des points communs, est-ce qu'il y a des différences?
Ben écoute, le point commun principal, c'est quand même que la Via Campesina est un mouvement non violent, c'est-à-dire qu'on ne prône pas de lutte armée, mais on provoque des actions de désobéissance civile déterminées, comme on l'a vu par ce qu'on a fait par rapport aux OGM, par exemple. Ça s'est fait dans pas mal de pays aussi. Quand on dit non violent, ça ne veut pas dire passivité, hein, ça veut dire vraiment faire des choses importantes, mais on ne défend pas du tout l'utilisation de la violence, même dans des pays où il y a des assassinats. On essaye de garder cette ligne. Et après, les actions qu'on mène, il y en a beaucoup qui sont menées en direction des multinationales, puisque c'est l'ennemi avéré le plus important des paysans. Il y a des actions aussi qui ont lieu dans certains pays contre la financiarisation, contre les banques aussi, qui sont aussi effectivement des rouages importants de ce système qui est en train justement de financiariser le foncier agricole et de faire en sorte de privatiser ou d'accaparer toutes les terres. Et donc les multinationales, donc pour leur implication dans tout ce qui est brevetage du vivant, pour tout ce qui est extractivisme, ce qu'on appelle extractivisme, c'est soit pétrole, soit gaz de schiste, soit les mines à ciel ouvert, soit les pollutions par les mines, soit des barrages, etc., quoi. On a toujours des paysans dans ce genre de choses qui se retrouvent en première ligne. Et donc, bien entendu que là-dessus, il y a des luttes aussi qui se mènent, qui sont importantes. On gagne certaines. Hein. On a gagné en Roumanie contre une mine d'or, là, il n'y a pas longtemps. À Rosa Montana, il y avait des paysans qui étaient expropriés. Ils ont fini par empêcher que cette mine d'or ait lieu. Et enfin, soit comment dire, mise en place, enfin, soit effective. Et donc, il y a, je ne sais pas comment te dire, mais on a des choses très variées, mais il y a sur lesquelles il faut qu'on intervienne. Il faut aussi qu'on intervienne, et on n'a pas que sur les luttes comme, comme but. Les luttes, c'est quand on réagit justement à une agression. Mais on intervient aussi sur le fond de l'agriculture, sur comment on produit, comment on cultive. Donc la Via Campesina prône l'agroécologie paysanne, pas l'agroécologie de Le Foll, là, qui accepte les OGM par exemple. Nous, on prône une agroécologie paysanne, où il y a un volet social très important. Et donc pour ça, on met en place un peu partout les Via Campesina, et beaucoup en Amérique du Sud, mais ça commence à se faire en Afrique et en Asie, et un peu en Europe, des écoles paysannes d'agroécologie. Et ça, bon, les paysans sans terre font ça très très bien en Amérique du Sud, et ils nous servent un peu d'exemple. Bon, on apprend à cultiver sans pesticides, sans OGM, et de manière efficace quand même, pour pouvoir arriver à vivre de sa production.
Je rebondis un peu sur la Roumanie, parce que l'automne prochain, il y a le deuxième forum là, de Nieleni autour de la souveraineté alimentaire en Europe.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous en toucher deux mots pour nous expliquer un peu, ça va être quoi cette rencontre ?
Oui, bien sûr. J'ai participé au premier, en Europe. Il y en a eu un avant de ce forum pour la souveraineté alimentaire. Donc le thème, c'est la souveraineté alimentaire. Il y en a un qui a eu lieu donc en Afrique, je ne sais plus l'année, mais c'était début des années 2000. À Nieleni, justement, au Mali. C'est un petit village qui s'appelle Nieleni, qui a été appelé Nieleni pour l'occasion, qui est le nom d'une déesse de la fertilité en Afrique. Donc on a repris ce nom pour organiser régulièrement, on en a fait un en Autriche, et là ça sera en Roumanie, des rencontres internationales européennes, sur ce thème-là, sur le thème de la souveraineté alimentaire, comment y arriver, de quelle manière, l'agroécologie, les circuits courts, la transformation, la vente directe, toutes ces choses-là sont un peu au centre de tous ces débats-là, et le problème du foncier, le problème de l'installation des jeunes, l'agriculture urbaine, il y a un tas de thèmes qui sont abordés et qui tous visent à promouvoir donc une agriculture respectueuse de la nature et capable de nourrir des populations locales.
C'est un moyen aussi d'associer un peu ce qu'on peut appeler les sociétés civiles et le monde associatif et écologique à cette lutte pour les survies des paysans, quoi.
Je suis désolé, j'ai pas entendu, tu peux essayer un peu plus fort.
Je disais que c'était un moyen d'associer les sociétés civiles.
Ah oui.
À la lutte pour la survie des paysans et puis un tournant dans l'agriculture.
Oui, tout à fait. C'est justement, j'ai oublié de le dire, ces forums sont ouverts justement à la société civile, aux ONG qui gravitent un peu autour de ce que font les paysans au niveau alimentaire et au niveau de la production alimentaire. Ouais. Donc il y a, par exemple, il y a les Amis de la Terre, il y a un tas d'autres ONG, donc j'oublie, il y a Radio Zinzine qui vient aussi régulièrement, etc. Quoi. Donc on est sur un truc ouvert qui n'est pas uniquement syndicat, paysan et pas que Via Campesina, absolument.
Alors, on a parlé des luttes dans le monde, mais est-ce que tu veux t'exprimer sur les luttes là en France, paysannes, actuelles, enfin, c'est quoi les enjeux pour les prochaines, les prochains mois et tout ça?
Oui, bah bien sûr, on a vu l'an dernier que le monde paysan ou agricole français s'est beaucoup bougé pour défendre une agriculture très... Oh, c'était du bruit, là. Une agriculture très industrialisée, on va dire, puisque ça bougeait beaucoup au niveau des paysans bretons, des productions porcines, du lait de vache assez intensif, etc. Et nous, la Confédération paysanne, sur ce sujet-là, on a toujours dit les mêmes choses. On a dit que si on veut arriver à sortir de l'agriculture, il faut produire moins, parce que là, on est dans un système de surproduction. On a abandonné les quotas laitiers, alors que la FNSEA a défendu cet abandon. Maintenant, elle pleure parce qu'elle veut une régulation. Les quotas laitiers permettaient de réguler l'agriculture. Ben voilà, on est le bec dans l'eau, puisqu'il y a une surproduction, donc les cours baissent. Il y a trop de cochons parce qu'on produit d'énormes quantités de cochons en Bretagne en particulier, ou dans le nord de l'Europe, et donc du coup les prix chutent aussi. Et nous, on n'était pas du tout d'accord de manifester avec ces agriculteurs qui effectivement sont avec leurs gros tracteurs qui valent très cher, ils sont endettés jusqu'au cou, ils viennent barrer des routes avec leurs gros tracteurs qui sont quand même un signe extérieur de richesse, on peut pas dire autrement quoi. Donc ça fait un peu bizarre d'aller demander des subventions quand on a des outils énormes comme ça. Et nous, on était plutôt sur une défense d'une agriculture différente. Il faut remettre en question la façon dont on produit. Il faut produire moins, il faut produire mieux. Il faut produire décentralisé. Il faut arrêter de produire toutes les céréales dans un endroit, toute la viande dans un autre, grosso modo la Bretagne, le bassin parisien, et puis tous les fruits dans un autre secteur. Il faut arriver à avoir une agriculture diversifiée partout. Relocaliser avec une vente locale, etc. Donc des petits outils économiques, des petits abattoirs un peu partout. Ça, c'est notre réponse à cette crise. Mais évidemment, on n'est pas du tout compris par ces paysans, enfin ces agriculteurs-là. J'appelle plus à des paysans, donc c'est des gens qui sont dans un système qui les dépasse, où ils sont en fuite en avant. Et donc on est par exemple sur une bagarre depuis 2 ans. Contre le modèle de la ferme des 1000 vaches dont vous avez entendu parler. On est intervenu à 3 reprises de façon non violente mais physiquement sur ces bâtiments en construction et sur la salle de traite qu'on a démontée un jour. On a eu des procès pour ça, mais on est ferme sur cette revendication-là. Il faut arrêter le gigantisme et arrêter de vouloir mettre en place des modèles robotisés d'agriculture high-tech, de grandes fermes, qui ne sauveront pas les paysans et qui feront que reculer le problème de quelques semaines peut-être pour certains, mais qui en même temps font mettre la clé sous la porte à des milliers de petits paysans qui du coup... La ferme des 1000 vaches, ils peuvent produire du lait à 22 centimes d'euros le litre, alors que le prix de revient du lait, c'est autour de 40 centimes d'euros le litre. Donc ça veut dire que si eux, on multiplie ce modèle-là, on va diviser par 10 ou 20 le nombre de producteurs de vaches laitières en France. Et ça, c'est un modèle dont on veut pas. On veut un modèle qui fasse vivre un maximum de monde. Donc on nous a pas vus sur les routes l'an dernier, ni cette année, par rapport à ces sujets-là. Par contre, on a des réponses à apporter, des réponses qu'on soumet à la fois à nos gouvernants et à la fois aux paysans, mais... Certains ont la tête dure, on a du mal à faire passer nos idées, mais on pense que ce sont les bonnes et on continue à y croire.
On va y croire. Écoute, on voulait te remercier pour ton intervention. On voulait te remercier pour ton intervention. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter un petit peu quelque chose pour conclure, si tu avais prévu de dire un mot de la fin.
Tout de suite, là, moi, ce que je veux dire, c'est que bravo bravo Radio Canu pour ce que vous faites, cette émission sur l'agriculture, je trouve ça super, et que vous donniez la voix aux petits paysans, c'est important, parce que peu nombreux sont les médias qui le font, et il faut qu'on fasse des actions où on se mette en danger pour arriver un peu à faire passer nos messages. Donc merci à vous d'exister et continuez comme ça.
Merci Christian, à la prochaine dans les émissions des paysans et des paysannes dans la lutte des classes.
Ça marche.
On va appeler Valentina et passer un petit morceau de musique pour embrayer sur la charte mondiale des droits et des paysans et des paysannes.
Merci, au revoir.